Le Grand Dialogue.
Sigikafoba.
Odewani wa makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry. Halo Mondi.
Chenni Berry. Sigikafoba. Le Grand Dialogue.
La cité des Askia accueille ce forum de la presse d'aujourd'hui et pour en parler, nous avons trois sujets. La situation sécuritaire à Gao et partout au Mali, également la nomination du Premier ministre et celle également du président du Haut Conseil islamique. Nous parlerons des attentes de la population de Gao envers le nouveau gouvernement et également nous parlerons de l'éducation avec la grève des enseignants. Et nos invités aujourd'hui sont quatre journalistes, tous directeurs de médias ici à Gao. Il s'agit de Modibo Tandina du Témoin du Nord, Kader Touré de la radio Ania, Boubacar Touré de la radio Adar Koïma et Souman Adoulaye de la radio Nata qui nous accueillent. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, première question à vous, monsieur Boubacar Touré de la radio Adar Koïma. Aujourd'hui, comment la nomination du Premier ministre Boubou Cissé est perçue par la population à Gao?
Bien, merci. Merci au studio Tamani de m'avoir donné cette opportunité pour m'exprimer sur les antennes de studio Tamani. Par rapport à la nomination du tout nouveau Premier ministre, je vous avoue que on attend beaucoup de lui. C'est quelqu'un que nous, particulièrement, on ne connaît pas beaucoup. On sait qu'il était, n'est-ce pas, dans le gouvernement de M. Soumaïlou Boubé Maiga. C'est un peu tout ce qu'on sait de lui. Mmh. Maintenant, qu'il soit Premier ministre pour ce gouvernement, nous ne pouvons que saluer cela. Parce que, effectivement, quand il y a des problèmes, quand une équipe ne gagne pas, il faut la changer. Il faut la changer. Il faut tester les hommes, il faut tester les uns et les autres, jusqu'à ce qu'on puisse avoir l'homme qu'il faut, qui puisse nous sortir de l'ornière. Et on salue vraiment cette nomination. Et on attend beaucoup de lui. On attend, on l'attend sur le terrain. On attend de voir les actions qu'il va mener étant Premier ministre.
D'accord. Modibo Tandina, pensez-vous que le nouveau Premier ministre pourra faire face à la situation?
Bien, M. Touré, j'espère vraiment qu'il puisse faire plein de choses. Mmh. Seulement, ce que je veux dire, c'est que on ne fait pas du nouveau avec des anciens. Mmh. Il a été ministre de l'économie et des finances pendant un bon bout de temps. On sait qu'il est très proche de M. Soumaïlou Boubé parce qu'il est quand même le petit frère du vice-président de Asma. Il est très proche de la famille présidentielle, mais j'espère quand même qu'avec son expérience de financier, de banquier, d'économiste, il puisse faire beaucoup de choses, comme l'a dit Bouba, pour sortir le Mali de l'ornière. Mais ce que je rappelle, c'est que on ne fait pas du nouveau avec de l'ancien.
D'accord. Soumana Doulaye, pensez-vous que sa jeunesse va être un potentiel pour lui ou un handicap?
Non, ce n'est pas vraiment un handicap, c'est une potentialité. Mmh. Moi, je trouve que le président de la République l'a nommé parce que il sait que vraiment il peut être vraiment au souhait des attentes des populations. Mmh. Vous savez encore que le Mali aujourd'hui traverse beaucoup de difficultés auxquelles le président cherche un homme qui peut vraiment résoudre ces problèmes-là et pour que les difficultés auxquelles le président même est confronté puissent vraiment être résolues. Vous savez, et ensuite, ce que je veux dire, il est jeune, c'est vrai. Mais nous voulons des gens qui sont compétents. Il doit être compétent, il doit vraiment répondre vraiment à tout ce qui est des critères pour qu'il puisse vraiment amener les bateaux maliens à un bon port. C'est ce que nous voulons vraiment attendre de lui.
D'accord. Monsieur Kader Touré, quelles sont les attentes de la population de Gao envers le gouvernement?
Voilà, c'est là toute la question. Et la question, c'est véritablement ce que les populations de Gao attendent du nouveau Premier ministre. Parce que ce qui a fait débat plus tôt, c'est la démission de l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubé Maiga. C'est ce qui a beaucoup intéressé les populations de Gao pendant tout le processus qui a amené son départ. Mmh. Maintenant, Boubou Cissé, je le disais, c'est un jeune cadre. Il n'est pas du tout pressé. Il a toute une carrière devant lui, n'est-ce pas? Il est entre des bonnes mains pour faire une très bonne carrière, mais je crains qu'il ne soit pas très tôt pour le lancer, n'est-ce pas? Pour lancer ainsi jeune cadre dans la gueule du loup. Il est entouré de vieux roubards qui maîtrisent bien surtout la scène politique. Ce n'est pas sa compétence en tant que cadre malien qui fait débat. Non, il n'y a aucune, y a aucun problème à ce niveau-là. Mais sur le plan politique, quelle va être sa stratégie? Ensuite, est-ce qu'il aura les mains libres pour réellement répondre aux attentes des populations maliennes qui, comme Modibo Tandina vient de le dire, a besoin du nouveau? Il faut tester la jeunesse malienne, d'accord. Mais est-ce que Boubou Cissé aura les mains libres pour gouverner et mettre toute sa stratégie, sa compétence au service des populations du Mali? C'est là toute la question. Le Mali a déjà expérimenté des jeunes premiers ministres, mais rapidement, ils ont compris que ça ne pourrait pas marcher. Tatamli en a l'expérience, tout comme Moussa Mara, qui ont voulu travailler réellement dans ce pays-là, mais ils étaient entourés de vieux briscards qui n'ont pas du tout aimé voir ces jeunes à la place qu'ils occupent, c'est-à-dire au sommet du gouvernement de la République. Donc, toute la question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que Boubou aura les mains libres, n'est-ce pas, pour gouverner et tranquillement et répondre aux besoins des populations? C'est quand même un chantier très, très vaste.
D'accord. Il est chef du gouvernement. Est-ce qu'avec son équipe, ils auront la main libre pour travailler?
Bon, je crois que c'est comme l'a dit Kader. Est-ce qu'ils auront les mains libres? Est-ce qu'ils auront, il aura la main libre pour travailler? Toute la question est là. Toute la question est là. Maintenant, ce que l'on sait par le passé, parce que c'est passé, en tout cas, je sais qu'il aura du pain sur la planche. Il aura du pain sur la planche, les uns et les autres l'ont dit. Non seulement il y a les grands politiciens qui sont là, alors qu'ils ne sont pas encore, n'est-ce pas, prêts à laisser la place pour les jeunes. Ça, c'est un autre débat. Et ensuite, il y a celui qui l'a nommé, qui est le président de la République. Et là, il est dans l'obligation, alors, de travailler avec sa feuille de route. Donc, il y a tous ces aspects-là qui vont peser dans la balance. Maintenant, est-ce que il va jouer les bonnes cartes? Ça, on l'attend, c'est sur le terrain qu'on peut le juger. Mais pour l'instant, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Et très bonne chance à toute l'équipe gouvernementale.
D'accord. Alors, Soumana Adoulaye, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Mali a un problème de gouvernement, un problème de système, ou est-ce que c'est un problème d'homme?
Moi, je trouve que c'est un problème de système. Ce n'est pas un problème d'homme. Tous ceux qui ont eu la chance de gouverner ce pays-là, ce sont des cadres, ce sont des gens qui sont très compétents. Mais malheureusement, il y a d'autres personnes qui sont vraiment invisibles, qui ont vraiment leur mot à dire. Chaque fois, on a vu avec Tatamli. Tatamli, nous avons beaucoup de, c'est-à-dire d'informations par rapport à ses causes de démission. Quand vous prenez Moussa Amara, c'est la même chose. Donc, même les tout derniers premiers ministres qui est parti, à Blaise Idrissa, Mega, on sait que ce n'est pas vraiment Forti qui sont partis. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est le système en toute réalité qui n'est pas bon. Ce système-là doit vraiment être changé. C'est un système à revoir. Moi, je veux dire que il ne suffit pas seulement d'amener des hommes. Si même ces hommes-là arrivent avec toutes leurs compétences, tous les savoirs, toutes les connaissances du monde et tous les savoirs du monde, si ces gens-là n'ont pas vraiment toute la liberté d'agir, toute la liberté vraiment de mettre vraiment leurs compétences vraiment en jeu pour pouvoir sortir vraiment ces pays-là de l'ornière, on ne va jamais avancer. Ce que je veux dire encore, c'est que on sait que c'est un tel le Premier ministre. Mais maintenant, si on va le laisser vraiment travailler comme il le faut, sa liberté d'agir, de réfléchir et de mettre ses actions vraiment là où il faut les mettre. C'est ça la question. Sinon, tous ceux qui ont eu la chance de gérer ce gouvernement-là, c'est des gens qui sont compétents. Mais malheureusement, quand vous allez arriver au moment de la gouvernance, vous allez comprendre qu'il y a d'autres, mais invisibles, il y a d'autres personnes vraiment influentes qui ont des mots à dire aussi, qui peuvent vous contourner. C'est ce qu'on a compris dans ce système-là. Sinon, de Tatamli, on sait que Tatamli est un cadre. Et c'est un homme qui est vraiment objectif, qui a vraiment des très bons projets pour le Mali. Mais malheureusement, il y a eu d'autres personnes qui l'ont contourné. Donc, ça, c'est ce que j'allais dire tout de suite.
Modibo Tandina, vous pensez que est-ce qu'il fallait un autre Premier ministre qui n'a pas participé à toute cette gestion du pays?
Touré, moi, je vais vous dire qu'en Afrique, il faut faire quand même la nuance. Premier ministre ou premier des ministres. C'est ça le grand problème. Est-ce que le chef du gouvernement, il est premier ministre ou premier des ministres?
Quelle est la différence?
Tout de suite, Ousmane a parlé de, du cas de Mara. Je me souviens que Mara, à Kidal, il a été en tant que premier ministre dans l'avion du président, dans l'avion présidentiel. Et ce qui s'est passé à Kidal, nul ne l'ignore. Quand il est revenu de Kidal, il était d'abord à Gao, ensuite à l'aéroport de Bamako, il a été accueilli en héros. À Sébenikoro, le président de la République a dit « Mon premier ministre est un grand homme ». Et c'est le même président de la République qui le désavoue après sa tournée à Ségou. Pour te dire que premier ministre, premier des ministres, bon, c'est vraiment rien quoi, c'est vraiment rien. C'est simplement un fonctionnaire de l'État à la solde du président de la République qui l'enlève quand il le veut, qui met quand il le veut, et ce n'est rien, quoi. Donc, je me dis que M. Boubou Cissé, 45 ans, jeune cadre, très compétent, saura dire à Ibeka non quand il le faut, et oui quand il le faut, mais j'en doute, quoi. Changement de premier ministre, ce n'est pas ça la chose. Soumelou Boubé a été, pourquoi il n'a pas, en fait, on pense qu'il a démissionné, moi j'ai dit non. Il a été simplement radié parce que ça n'allait pas, il fallait qu'il s'en aille pour sauver la tête du président de la République. Comme Adlaï Idrissa est parti, comme Moussa Mara est parti, comme Tatam Lee est parti, et si Bouboussi ne fait pas attention, il s'en ira par la petite porte de la même manière.
D'accord. Kader Touré, quel système faut-il aujourd'hui pour faire face aux défis que le Mali rencontre?
Le problème, surtout au niveau de la gouvernance dans ce pays, réside en mon entendement au niveau du parti au pouvoir. Tant que le président de la République ne fera pas confiance à un cadre du Rassemblement pour le Mali, le RPM, et nommé Premier ministre, il y aura très difficilement qu'il y ait stabilité politique dans ce pays. Dans les démocraties traditionnelles, c'est comme ça, le parti au pouvoir, vous gagnez les élections et puis le premier ministre, on le sort du parti au pouvoir. Tel n'a jamais été le cas, sauf le cas test de Ablaï Idrissa Maïga, qui lui également n'a pas été nommé premier ministre parce qu'il appartient au RPM. Non, c'est des relations personnelles et qu'il a tissées avec le président de la République, et ce qui a valu le poste de premier ministre. Et jusqu'à présent, le président de la République continue à tourner le dos à son parti, et chaque premier ministre qui va venir aura sur le dos le poids du Rassemblement pour le Mali, le RPM. Et c'est là que, pour le cas de Mali Express, c'est là que ça ne va pas. Voyez-vous, tous les premiers ministres qui se sont succédés ont eu des problèmes avec le RPM. Et cette fois-ci, ils ont été jusqu'à combattre le gouvernement en déposant une motion de censure du gouvernement qu'eux, ils sont censés soutenir. Comment voulez-vous que ça puisse marcher dans de telles conditions? Voyez-vous. Donc c'est là tout le problème qu'on a aujourd'hui. Est-ce que Boubou Cissé aura l'aval du RPM? Certes, on parle de lui comme cadre du Rassemblement pour le Mali, mais il ne fait pas partie des cadres désignés par le RPM, ça tout le monde le sait. Il fait partie du cercle très fermé, très minime du président de la République, avec certaines personnalités que tout le monde connaît, et le président n'a jamais quitté ce petit cercle-là, tout simplement parce qu'il leur fait confiance entièrement, le président leur fait confiance entièrement. Il aura certainement... Il aura à travailler correctement avec le président de la République, mais de l'autre côté, tout autour de ce petit cercle, il y a encore des gens qui sont prêts à l'abattre. Il doit faire énormément attention.
D'accord. Boubou Touré, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la solution se trouve au niveau de la population?
La solution à quoi, par exemple?
La solution à la gouvernance.
Bon, la population. Bon, j'en doute fort. Parce que ce qu'il faut dire, je reviens un peu sur les propos de Kader par rapport à la nomination du Premier ministre. Moi, je crois que nous sommes dans une situation où on ne peut pas parler de démocratie, hein, en toute objectivité.
Le Mali n'est-il pas démocratique?
Bon,
de nom
démocratique de façade, oui, bien sûr. Parce que là où le chef du gouvernement ne peut pas gouverner comme ça se doit, où il faut attendre chaque fois que des directives viennent d'ailleurs, souvent même pas du système, d'ailleurs, parce que ceux-ci ont l'amabilité d'influencer n'est-ce pas, ceux qui sont proches du président ou le président lui-même, pour le faire partir. On ne peut pas parler de démocratie. Moi, je crois que, comme on le dit, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il n'est pas dit forcément dans la situation actuelle dans laquelle se trouve le Mali que forcément le Premier ministre, que ce Premier ministre vienne du RPM, bien qu'il soit au pouvoir. Celui qui doit venir pour moi, alors doit être en tout cas quelqu'un, et comme l'a dit mon grand frère
Modibo Tandina,
qui à un moment donné sait dire non. Non. Il ne faudrait pas qu'on s'aventure sur cette piste. Il faut qu'on s'arrête, qu'on regarde en face pour aller de l'avant. Maintenant, pour que tout cela puisse marcher, effectivement, on ne peut pas simplement réunir quelques hommes, bon, allez-y, travailler au nom de toutes les populations. Et souvent, on ne demande pas l'avis de ceux-ci par rapport à certaines décisions importantes qui concernent toute la nation. Ça, c'est extrêmement important. Parce que même le petit paysan qui se trouve dans son village, il n'est pas dit parce qu'il est paysan qu'il est bête. Il n'est pas dit parce qu'un pauvre enseignant qui se trouve à une écart, et parce qu'il a une écart, il n'a pas son mot à dire. Alors, il faut donner la parole et écouter les gens, c'est important. C'est très important avant de prendre certaines décisions qui concernent la vie de toute la nation.
Allez-y.
Le Premier ministre que ce pays a connu, si vous interrogez les populations maliennes de façon générale, depuis 1991, c'est bien l'actuel président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il était non seulement le président du parti au pouvoir, et Alpha lui a fait confiance entièrement. Il a gouverné avec la force, tout le monde le sait, il avait le pouvoir. On sentait qu'il y avait un homme ici qui sait prendre les décisions et qui engage la République tout entière. Et il a pris des décisions très, très sérieuses, bien qu'impopulaires, mais qui ont fait marcher les choses. Parce qu'avant que Alpha ne découvre Ibrahim Boubacar Keïta, il y a eu cette succession de premiers ministres qui démissionnent en cascade. Mais quand il est revenu, c'est l'ensemble du pays qui a compris que voilà quelqu'un qui est là, qui est arrivé pour stabiliser le pays, et il a reçu sa mission, bien que la suite a été ce qu'elle a été. En tout cas, il a été, de notre point de vue, si vous interrogez les populations maliennes, certainement ils vous l'ont dit, qu'il est l'un des premiers ministres que ce pays a connu depuis l'avènement de la démocratie dans ce pays.
Oui, mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Kader. Entre Ibeka, premier ministre, Ibeka, président de l'Assemblée, et Ibeka, président de la République, il y a toute une marge, il y a tout un fossé. Je crois que Ibeka était un très bon premier ministre parce qu'il avait un bon président de la République. Et ce n'est pas le même Ibeka aujourd'hui qui, à toutes les occasions, nous verse des larmes de crocodile, puis raconte des histoires. Non, je ne suis pas d'accord avec Kader. Ibeka était un bon Premier ministre parce que Alpha était un bon président de la République. Il a été un bon président de l'Assemblée parce que ça marchait. Mais aujourd'hui, oui. Mais
donc Boubou Cissé sera un bon Premier ministre s'il est avec un bon président de la République.
Il risque d'être un mauvais Premier ministre parce qu'il n'a pas un bon président de la République.
Alors tous ces premiers ministres qui ont démissionné, est-ce que c'est eux le problème?
Ils étaient bons. Mais le problème en réalité du Mali, c'est la tête. C'est Ibeka, président de la République, qui n'est pas bon en réalité. Moi je le dis, c'est Ibeka le problème du Mali. Et vous avez dit, la question que vous avez posée tout de suite à Bouba, c'est par rapport à la population. Non, la population du Mali ne se reconnaît pas à Boubou Cissé. Elle ne se reconnaissait pas à Adla Idrissa. Elle ne s'est pas reconnue à Soumaïlou Boubé. Elle ne s'est pas reconnue en Moussa Mara parce qu'en réalité, le Mali ne se reconnaît plus dans Ibeka. Le problème du Mali, en réalité, c'est Ibeka.
D'accord. On voit de plus en plus, Soumana, de la population qui soulève, qui dénonce. Est-ce qu'elle peut dire que la population est de plus en plus consciente de la situation ou est-ce que c'est une population qui est toujours manipulée par certains?
Non, personne n'est manipulé. Vous savez, nous sommes en démocratie. On a dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui donne sa mandat à quelqu'un pour devenir président de la République. Le président de la République est tenu d'écouter, c'est-à-dire sa population, c'est-à-dire son peuple. Aujourd'hui, le peuple, quand le peuple demande, ou bien quand le peuple souffre, le peuple a vraiment le droit de sortir pour se manifester, ou vraiment pour se protester. C'est normal. C'est ça la démocratie en réalité. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe en France avec les gilets jaunes. Mais j'ai dit qu'on ne peut pas ne pas écouter vraiment son peuple en tant que président de la République. Mm. Si vous voyez que ça ne va pas partout dans ça, notre territoire, c'est parce que les gens en souffrent. Mm. Ça ne va pas. Mm. Il y a tellement de problèmes, mm. de telle sorte que personne ne sait vraiment ce quel pays vraiment il faut danser. Mm. Parce que non seulement les gens qui sont censés vraiment écouter les gens, à solutionner les difficultés, c'est-à-dire n'écoutent personne. Mm. Si vous voyez qu'à Bamako aussi, les gens sortent chaque jour pour vraiment revendiquer, c'est parce que ça ne va pas. Mm. Donc là, le président de la République, garant de la République, doit se poser des questions pour dire qu'est-ce qui ne va pas au niveau de mon peuple. Qu'est-ce que mon peuple veut? Pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour les rencontrer? Pour savoir de quoi vraiment ce peuple-là souffre. C'est parce que les gens souffrent partout. Mm. Aujourd'hui, tout le monde sait que vraiment, il y a tellement de tensions. On sait que vraiment aujourd'hui, les gens souffrent partout. Il y a des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes vraiment, même de gouvernance. Tout ce qui se passe actuellement, c'est un problème de gouvernance actuellement. Mes collègues l'ont dit, le président de la République doit aller à la rencontre de ces populations pour les écouter. De quoi vous souffrez? Qu'est-ce qui se passe? Mais ce que nous avons compris, on a compris que les Maliens étaient téléguidés. C'est ça la question. Par certaines puissances extérieures. Mm. Ça, il ne faut pas que vraiment on se cache la vérité. Abdoulaye Diallo, on sait comment il est parti. Tous les premiers ministres Kibeka a eu à nommer ont été, c'est-à-dire, salués et remerciés par d'autres pressions extérieures. Mm. On le sait. Tata Mbili était un très bon premier ministre. Mais on sait comment il est parti. Il a eu d'autres conflits, même internes à Bamako, au niveau vraiment de la famille présidentielle. C'est pour vous dire que si la gouvernance est liée, c'est-à-dire à des gens qui sont très influents, qui ont leur mot à dire, c'est-à-dire dans les activités ou en ce qui concerne vraiment ce que le premier ministre doit faire dans ses tâches, ça veut dire que c'est des problèmes. Et aujourd'hui, Soumilou est parti, on sait que Soumilou est tellement travaillé, les gens ont dit que c'est l'homme de la situation, mais il a fini par partir. Maintenant, Ibeka doit aller écouter ses populations. Ça, c'est très important. Mmh. Vous voyez qu'il y a tellement de grèves, il y a tellement vraiment des gens qui déposent des mots d'ordre de grèves, des gens qui marchent. Au sud, ça ne va pas. Ça veut dire que vous prenez au nord, ça ne va pas. Là, il doit se poser beaucoup de questions. Quelles solutions il faut pour ces pays-là?
D'accord. Et ça nous permet d'aborder le deuxième sujet de ce forum de la presse. Vous avez parlé de grève, bien sûr. Nous allons parler de la grève des enseignants qui se poursuit. Est-ce que le gouvernement de Boubou Cissé pourra faire face à la grève des enseignants, Modibo Tandina?
Moi, je dis que Boubou Cissé et son gouvernement prochain doivent impérativement faire face à cette crise sociale. Vous savez, je fais partie de la première génération de Maliens qui ont connu l'année blanche en 1980. J'ai connu l'année blanche, j'ai été victime d'année blanche et de suspension après. J'ai dit non, je ne peux pas souhaiter ça aujourd'hui à mes enfants, à mes petits-enfants, parce que c'est quand même trop. Et je crois que M. Boubou Cissé doit faire ce qu'il faut pour que le gouvernement renoue le dialogue avec les enseignants, les syndicats d'enseignants, pour que cette histoire-là cesse, parce que c'est quand même peu de choses par rapport à tous ceux qui sont en train de donner à des députés qui ne font rien pratiquement que lever le doigt. Vous voyez, quand il y a une session à l'Assemblée, quand on doit voter, c'est deux doigts. Je vote pour moi, je vote pour mon collègue qui est en train de faire son business dans la rue. Et ils perçoivent 3 millions pour faire quoi? Pour faire quoi par rapport à ce que font les enseignants, à ce que réclament les enfants? Je dis non. Monsieur Boubou Cissé, s'il m'entend, je crois qu'il a du pain sur la planche, mais qu'il fasse le maximum. Je ne dis pas le minimum, mais le maximum pour que les enfants rentrent, pour que les enseignants, ils sont dans leurs droits, ils perçoivent ce qu'ils réclament pour l'avenir du Mali. Parce qu'on a toujours crié, depuis sous Moussa Traoré, l'avenir du Mali, c'est la jeunesse, mais qu'on nous le prouve. Qu'on nous le prouve. Voilà.
Est-ce que les enseignants, les élèves, les parents au niveau de la région de Gao même souffrent de cette crise scolaire?
Mais tout le monde souffre de cette crise-là. Mm. Parce que, à ce que je sache, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas quand même son enfant à l'école. Mm. Donc c'est un problème qui concerne tout le monde. Mais la question, est-ce que Boubou Cissé et son gouvernement, alors, peuvent avoir les solutions pour l'école aujourd'hui? Bon, on le souhaite vivement, mais j'ai des doutes.
Pourquoi?
J'ai des doutes. Nous sommes bientôt en mai, juin, bientôt c'est les vacances. Ensuite, à certains endroits, c'est la période de pluies.
L'hivernage.
L'accès à l'école même est difficile. Il y a tous ces aspects. Le problème même des enseignants aujourd'hui, c'est vrai, on a appris que le président, qu'on salue au passage, a pu trouver la formule pour que les enseignants puissent, n'est-ce pas, entrer en possession de leur salaire. Mais jusque-là, je crois que ce n'est pas fait. En tout cas, à Gao, certains enseignants qu'on a rencontrés, alors à la banque, trouvent que rien n'est fait encore. Donc ça, c'est un problème. Et ensuite, la question que je me pose, Boubou Cissé était le ministre des Finances avec Soumaïlou Boubé. N'avait-il pas la solution en ce moment avec Soumaïlou, ou c'est Soumaïlou qui l'empêchait d'avoir la solution? C'est une question que je me pose. C'est aujourd'hui qu'il peut avoir la solution étant Premier ministre. Ça veut dire quelque part, on m'a bloqué ou on a empêché à ce que je donne la solution. C'est la réflexion que je fais automatiquement. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment des doutes si réellement ils peuvent jouer les bonnes cartes pour la réouverture des écoles. Mais en tout cas, ça nous tient à cœur. Ça nous tient à cœur, comme l'a dit mon grand frère. Alors, une année blanche, ce n'est pas la solution pour les enfants. Mais dans des conditions comme ça, même si on forçait les choses, alors c'est pour faire quelle sorte d'homme demain? C'est pour bâcler des examens, faire forcément des passages obligés. Pour quel résultat demain? Faire des fantômes pour le Mali? En tout cas, voilà pourquoi j'ai des doutes.
D'accord. Soumana, avez-vous aussi des doutes quant à la capacité de Boubou Cissé et son équipe à faire face à la crise scolaire?
Je pense que le collègue a tout dit. Maintenant, ce que moi je vais ajouter, c'est qu'il a tout à fait raison. Moi, je ne suis pas vraiment optimiste pour dire que vraiment il peut faire face à cette situation. Parce que d'autant qu'il était le ministre des Finances, que les difficultés-là vraiment surgissent. Ce que je vais dire, je dis que pas seulement l'enseignement. Dans toutes les catégories, dans tous les secteurs, si les gens qui sont à la gouvernance ne font pas attention, on va tous revenir dans des pièges de ce genre. On a vu, avec Ibeka, il y a eu tellement de grèves. Parce qu'on prend des fausses promesses aux gens. Des promesses écrites que les syndicats déclinent avec eux, et demain c'est ces promesses-là qu'ils brandissent vraiment devant l'État. Et les gens se mettent à accuser les syndicats, c'est parce qu'on les avait promis
des choses.
Donc vraiment un président ou un gouvernement qui n'arrive pas à honorer ses promesses, c'est pas un gouvernement qui est appelé vraiment à gouverner. Qu'on se dise vraiment la vérité, tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez dans ces grèves-là illimitées, incessante, c'est parce que ces gens-là ont eu des gains de cause. On les a promis partout. Donc, je pense bien que si on continue à gouverner ce pays dans ce même système, nous n'allons jamais sortir vraiment de ces guerres-là qui ne finissent pas.
D'accord.
J'allais encore dire, par rapport à ce que vous avez dit tout de suite, si les gens de Gao vraiment sentent la même souffrance, mais qui ne sent pas ça? On sait qu'à Kaï, les gens ont marché. À Sikasso, les gens ont marché pour les problèmes de l'école, des mamans qui sont partis même à rencontrer leur mère pour dire voilà comment elles sont en train de souffrir. Et je vais tout simplement dire qu'aujourd'hui, nous devons avoir des hommes, comme Modibo l'a dit, qui savent dire non quand ça ne va pas. Mais si toutefois vraiment on doit toujours dire oui pour faire plaire aux autres, j'ai dit qu'on va toujours vraiment se trouver dans des problèmes. C'est ce que j'allais dire.
D'accord. Kader Touré, faut-il réellement sauver l'année scolaire?
Il le faut. Il faut sauver cette année scolaire, si vraiment on peut, si on pouvait le faire. Le problème social de façon globale...
Mais même si on pouvait aujourd'hui, si on sauve cette année, quel va être le résultat?
Comment on va... Quand on parle de sauver l'année scolaire, ce n'est pas seulement faire en sorte qu'il y ait des examens et qu'on fasse, on fasse table rase sur ce grand retard sur les programmes de l'école. Ce n'est pas ça, sauver l'année scolaire. Non. Pour moi, l'année scolaire sauvée, c'est que les enfants ont étudié le programme et ont été évalués normalement. Ceux qui doivent passer vont passer, ceux qui ont doublé vont doubler.
Au cas où aujourd'hui on déciderait de sauver l'année scolaire, cela veut dire qu'on puisse épuiser le programme. Ça veut dire qu'on va prendre un temps sur les vacances.
Un temps sur les vacances, des cours de rattrapage, faire des efforts supplémentaires.
La question c'est quoi? C'est que la plupart de ces enfants, je ne parle pas de Bamako, au niveau local, ce sont les paysans également pour leurs parents pendant l'hivernage. Comment les parents également vont cultiver leurs champs si les enfants vont continuer à aller à l'école?
C'est pourquoi ça fait débat aujourd'hui, parce que c'est extrêmement compliqué. Maintenant, quand le Premier ministre s'engage à sauver l'année scolaire, voyons-le à la tâche, certainement il sait ce qu'il dit. Parce que le problème social de façon générale et la crise scolaire, c'est un problème de sous. Mais personne n'est mieux placé que Boubou Cissé aujourd'hui. C'est lui qui gère les finances de l'État. Personne n'est mieux placé que lui pour savoir si réellement le pays, si le Mali est capable de prendre en charge cette grande demande-là. Et comment il faudra le faire, il est bien placé pour le faire. Alors, s'il dit qu'il va sauver l'année scolaire, attendons voir ce qui va se passer. Mais comme vous l'avez tous dit ici, le problème n'est pas seulement que de faire entrer, par exemple, les enseignants et leur donner ce qu'ils demandent et qu'ils commencent à travailler à partir de demain. Ce n'est pas ça, sauver l'année scolaire. Sauver l'année scolaire, à mon entendement, c'est que l'enfant puisse bénéficier des programmes d'une année scolaire complète.
D'accord.
La question qu'il faut se poser, ce n'est pas parce que Boubou Cissé, il est ministre des Finances, qu'il sait qu'il peut sauver. Non, la question est pédagogique. Est-ce que le temps imparti qui nous reste permet de dispenser des cours appropriés à des enfants pour les préparer à des examens? C'est ça la question en réalité. C'est pas donner les moyens pour le faire. Non. Donc si moi je dis j'ai des doutes, c'est par rapport à ça.
La première des choses, c'est que les enseignants partent à l'école demain. Ça, c'est le plus. Tu sais que j'ai dit, c'est le plus tôt possible que ces enseignants là puissent aller à l'école. D'abord. En ce moment, on verra encore les autres goulots d'étranglement. Comment est-ce qu'il faut rattraper les programmes perdus, voyez-vous? Mais il faudra d'abord qu'il y ait ce déclic-là qui va permettre à l'enseignant de commencer.
D'accord, si Moudibo Tandina, même si on sauvait cette année scolaire-là, l'un des principaux défis que le monde de l'éducation au Mali doit relever, c'est le niveau des élèves. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement pourra le hausser encore, faire la fierté du Mali en termes d'éducation?
Est-ce que le gouvernement a le souci de rehausser? Est-ce que le gouvernement veut faire la fierté? Voilà pourquoi je rejoins les deux tout de suite. Ce n'est pas l'année scolaire qu'il faut sauver, mais c'est le système éducatif malien qu'il faut sauver. Parce que même si les enfants entraient, les enseignants entraient, demain ils vont ressortir et ce serait la même chose. Donc je dis, c'est une réforme du système éducatif malien qu'il faut. Pas sauver une année, mais sauver demain, après demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Moi je crois que c'est surtout ça le problème, quoi.
Êtes-vous optimiste quant à la capacité de Boubou Cissé et son équipe à pouvoir relever ce défi?
Ben non, tant que Boubou sera le premier des ministres, il ne sauvera rien. Il faut qu'il soit
juste pour mieux comprendre, le premier des ministres, c'est un premier ministre qui n'est pas indépendant, c'est ça?
Le premier des ministres, c'est le ministre nommé par le chef de la République, le président de la République, et qui à son tour va nommer avec le président de la République les autres ministres.
Et le premier ministre, c'est qui?
Le premier ministre nommé par le président de la République pour former un gouvernement en son âme et conscience qui puisse gérer un pays. C'est ça le premier des ministres. Le premier ministre. Ce n'est pas un ministre nommé parce qu'il faut faire plaisir à la famille.
Il est le premier sur la liste.
Tout juste. Non.
Alors, Soumana, même si on revoyait le système éducatif malien, aujourd'hui également, au-delà de cette grève des enseignants, il y a plusieurs écoles qui restent fermées au niveau national. Est-ce que Boubou Cissé et son équipe pourront faire face à ce défi également, c'est-à-dire la réouverture de ces classes?
Tout de suite, notre collègue enseignant l'a dit. Il dit que vraiment, il ne sait pas si, même si l'école est rouverte, si vraiment on peut, avec le temps imparti, c'est-à-dire rattraper pour faire vraiment des cours pédagogiques pour vraiment atteindre les niveaux qu'il faut. Ça, j'ai dit que vraiment, c'est très difficile. Tous ceux qui sont des pédagogues, tous ceux qui sont enseignants sont unanimes que le temps imparti qui reste ne peut pas faire l'affaire, quel que soit ce qu'on fait. C'est seulement, on peut avoir de l'argent pour essayer vraiment, avec la complicité de certains enseignants, c'est essayer vraiment de bâcler les cours, mais ça ne va pas servir les enfants. Ce qu'il faut regarder, ce qui est très important, ce sont les élèves malins qui sont appelés demain à être des cadres, à prendre même la place de Boubou pour au moins parler au nom du Mali, défendre le Mali. Si ces gens-là ne sont pas bien encadrés, demain, le Mali va avoir des cadres fantômes, comme il l'a dit tout de suite. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, l'erreur est faite. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir regarder qu'est-ce qu'il faut faire dès maintenant pour pouvoir faire face à l'année, à l'ouverture prochaine. C'est ce qu'il fallait regarder. Sinon, moi, je ne vois en aucun cas qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment rattraper. Parce que les cours pédagogiques, c'est à des périodes, c'est à des moments. On sait comment ça doit se faire. Et c'est dans un mois, on peut vraiment faire tous les cours qui restent. Et c'est possible. Ou bien dans deux mois, on peut le faire. C'est la question qu'on doit se poser. Donc, je pense que Boubou était où quand il y avait cette crise? Boubou était au gouvernement. Il était compris ce qui s'est passé au Mali. Ce qui se passe actuellement au Mali. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment régler les problèmes? C'est la question.
Vous avez parlé d'écoles fermées dans la région. À ce que je sache, en tout cas, on parle de 80 écoles fermées dans la région de Gao. Alors, ces écoles-là, combien d'enfants sont dans la rue aujourd'hui? Combien d'enfants sont à la merci de ces groupes armés? Parce qu'ils ne partent plus à l'école. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour réouvrir encore ces écoles? Toute la question est là. Parce que tant qu'il n'y a pas de sécurité, il ne faudrait pas qu'on se trompe, il n'y aura pas de réouverture de ces écoles. C'est clair et net. Les enseignants ne sont pas prêts à se sacrifier, aller là où il n'y a pas d'autorité. On ne peut pas demander à un enseignant, il faut aller à Guelehok, ou bien il faut aller à, je ne sais pas moi, Talaté, ou il faut aller à je ne sais où. Il n'y a pas de préfet, il n'y a pas de maire, il n'y a rien. C'est lui seul qui va aller, parce qu'il doit aller enseigner. C'est difficile, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Donc c'est ça le problème. Tant qu'on ne trouve pas la formule, n'est-ce pas, pour sécuriser au moins là où il y a les écoles, en tout cas, ce serait difficile alors que les enfants reprennent le chemin de l'école au niveau de ces sites-là.
Justement, vous en parlez, sécurité, et c'est le troisième sujet de ce forum de la presse. Quelques minutes pour en parler, un tour de table. Aujourd'hui, concernant la sécurité, pour y faire face, il y a un accord, l'accord pour la paix, qui prévoit beaucoup de choses, notamment le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion, et également le mécanisme opérationnel de coordination. Concernant ces deux processus-là, où en sommes-nous dans la région de Gao, Kader Touré?
Concernant ces deux processus-là, je commencerai l'accord pris de façon globale. L'un des aspects qu'on a tenté de mettre en œuvre, c'est le mécanisme opérationnel de coordination qu'on appelle MOC. À mon entendement, le MOC a été un véritable échec dès le départ à Gao. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour ces dizaines, voire des centaines de jeunes qui ont disparu.
Le micro.
Qui ont disparu lorsque le MOC a connu ce premier drame. Il y a des morts, beaucoup de morts, et beaucoup a tremblé ce jour-là. Et dès lors, on a compris que le MOC est parti, ce mécanisme-là est parti sur des bases très fragiles. Le MOC, l'objectif c'était quoi? C'était de rassembler les groupes armés, signataires de l'accord, et les forces armées du Mali, pour donner le symbole de l'armée unifiée qui va être l'armée malienne de demain. Aujourd'hui encore, surtout au départ, tous les problèmes d'insécurité que nous avons connus ici à Gao, les populations ont directement pointé du doigt les éléments de ce mécanisme opérationnel de coordination. Après ça, certainement, on a fait beaucoup de débats là-dessus pour que les populations puissent comprendre le mécanisme et pouvoir aider, n'est-ce pas, à la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Mais je dis que ça a été un échec total. Jusque-là, on ne sent absolument rien de positif qui entoure ce mécanisme opérationnel de coordination. Ensuite, on a parlé du DDR. On a expérimenté ici un DDR accéléré. Et tout le monde pensait en son temps qu'on était véritablement parti pour retirer les armes. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les armes circulent de façon extraordinaire dans ce pays-là. Et tant que les armes circulent, on ne peut pas identifier les hommes. Les gens posent des actes criminels sur nos routes, dans nos villes, ils enlèvent les véhicules. C'est tous les jours qu'il y a des sabotages de ce genre, mais on ne peut jamais indexer quelqu'un pour la simple raison que on est aujourd'hui voleur, violeur, braqueur. Demain, on se retrouve dans un des groupes armés. Donc, tant que le DDR là n'est pas effectif, il va être très difficile, à mon entendement, n'est-ce pas, de régler la question de la sécurité dans ces premiers éléments.
D'accord. Modibo Tandina, il pense que le DDR et le MOC est un échec. Pourtant, dans la ville de Gao, on voit très souvent les véhicules du MOC circuler. Est-ce que tout va bien à leur niveau?
Mais rien ne va. Comme l'a dit Kader, et ça me rappelle une causerie que j'ai eue avec un ami. Le jury m'a dit, signataire le jour, bandit la nuit.
Vous voyez ce que ça veut dire?
Signateur le jour, bandit la nuit. Et ça veut dire tout simplement que ceux qui ont signé depuis le 15 mai et qui ont été validés le 15 juin 2015 se rétractent tous les jours. Et le gouvernement fait ce qu'il peut. La communauté internationale fait ce qu'elle peut. Mais en réalité, moi je crois qu'il n'y a pas une volonté politique réelle. C'est ce qui manque en fait. Une volonté politique réelle pour aller au bout de cette histoire. Et pour vous dire, la petite anecdote, c'est que hier soir, tout simplement, le cortège qui ramène les cars de Sévaré est tombé sur trois personnes qui posaient des mines sur la route. Heureusement, pour les passagers, les gars ont été aperçus. Les soldats les ont poursuivis, les ont arrêtés. Mais qu'est-ce que les passagers ont fait finalement? Ils les ont lynchés et brûlés 500 et quelques kilomètres Gao-Sévaré. C'est pas la mer à boire. Ça peut être sérieusement sécurisé. Sérieusement sécurisé, je dis. Hein. Mais ce n'est pas l'agenda de ceux qui sont là aujourd'hui en train de nous gérer, en train de raconter des sales... Excusez-moi. C'est ça, hein? Signataire le jour, bandit la nuit. Et je me demande même si, au plus haut sommet, si on n'a pas le même système de signataire le jour et de bandit la nuit.
D'accord. Soumana, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une solution par rapport à ces processus de DDR et du MOC?
Moi, je trouve que la solution est très difficile à en avoir parce que nous avons compris que tout ce qui se passe chez nous là, c'est vraiment un projet de certaines personnes qui en bénéficient. Et ces gens-là, tant que les choses continuent comme ça, vraiment, ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc, ces gens-là ne veulent même pas vraiment qu'on passe vers la paix. Donc, nous avons compris que mes collègues l'ont dit, les MOC étaient un échec. Les MOC, aujourd'hui, regardez les gens de la SEMA qui sont une composante du MOC. Les gens de la SEMA, tous les véhicules octroyés aux éléments de la SEMA, ces véhicules ont été enlevés par eux-mêmes. Ils sont pas avec les propres véhicules. Personne ne sait où ces gens-là se trouvent avec ces véhicules-là. Ce sont les chauffeurs de ces véhicules-là qui partent avec les véhicules, au vu et au su de la communauté internationale et du gouvernement malien. Ça, c'est pour vous dire que vraiment, ça ne va pas. Et ensuite, au niveau du MOC, tout le monde, quand ils ont joué pour que les MOC soient vraiment établis ici au niveau de Gao, les gens ont pensé que c'est fini maintenant. On va avoir la paix, on va avoir la sécurité. Mais malheureusement, tel n'a jamais été le cas. Et même on constituait vraiment une insécurité pour nous. On le sait. Maintenant, par rapport au DDR, le DDR là, à un moment, on a dit le DDR accéléré. Le DDR accéléré, des gens qui faisaient partie de ceux qui ont fait vraiment les tests, d'autres ont été écartés. On dit que bon, on a fait une analyse des sang, ces gens-là ne sont pas positifs, donc vraiment ça ne va pas, ils ne peuvent pas être vraiment des militaires. Ça crée ici une tension. Tous ceux qui avaient leur nom sur liste vraiment affichée ont pris même des armes pour pouvoir faire vraiment des dégâts. Heureusement, certains sont partis les voir, leurs chefs sont partis les voir pour les calmer. On va voir si vraiment on peut faire une autre, c'est-à-dire activité pour essayer vraiment de vous rattraper.
D'accord.
Donc dans ce sens-là, je vais finir pour vous dire que ces gens-là qui ont été mis à l'écart, c'est des gens qui ont les armes. Ils ont appris à manipuler les armes. Ils ont appris à faire beaucoup de choses avec les armes. Si ces gens-là seront vraiment mis à l'écart avec cette frustration, ça peut être encore un problème pour les Maliens.
D'accord. Alors Boubacar Touré, qui supervise en réalité la mise en œuvre de l'accord quand on voit l'évolution des choses?
Vous savez... Moi, je vais dire d'abord que le Mali notre pays est tombé dans un piège depuis la signature des accords. C'est le problème se pose depuis à ce niveau-là. Et ces accords-là, jusqu'au jour où je vous parle, en tout cas jusqu'à ce moment précis, beaucoup de gens entendent seulement accords, on a fait des accords. Le contenu même n'a jamais été expliqué clairement aux populations. Ça pose problème. Les gens ont tendance à comprendre que chaque fois quand il y a des rébellions, ceux qui sont au sommet de l'appareil d'État se retrouvent quelque part et signent des accords pour que il y ait de la calmie. On est dans ce processus-là aujourd'hui. Maintenant, tout ça c'est des jeux de mots seulement. C'est des jeux de mots pour moi. C'est des gens intelligents qui se retrouvent quelque part, qui se disent bon, il faut réfléchir sur quelque chose qui puisse nous donner quelques ressources pour survivre. C'est ça la réalité du MOC, tout ça. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'on parle de MOC à Gao et qu'à l'intérieur de Gao, tu ne peux pas circuler librement. Tu es obligé de te cacher. On retire tous les jours que Dieu fait les motos, on braque les gens, on tue les gens. Mais où est le MOC? Ça veut dire que ça a échoué. Ça a échoué. Pour moi, on est allé trop vite en besogne. Tant que on ne cantonne pas tous ceux qui sont armés, qu'on l'officialise, vous avez jusqu'à telle date pour être cantonné et déposer les armes. Celui qui le fera pas à pas au-delà de cette date est considéré comme un ennemi à abattre.
D'accord. Et à quand la solution à tous ces problèmes? C'est la principale question que se posent tous les Maliens. Et c'est la fin de ce forum de la presse délocalisé dans la cité des Askia à Gao, à la Radio Nata. Merci à nos invités Soumana Doulaye de la Radio Nata, Boubacar Touré de Adar Koïma, Kader Touré de la Radio Ania et Modibo Tandina du journal Le Témoin du Nord. À la régie audio et vidéo, Moumine Sendebou et Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré, à demain pour un prochain forum de la presse de Studio Tamani. Merci à tous.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri, Halou Mandi.
Chenni Beri, Sigi Kafoba, Le Grand Dialogue.